Entrez sans frapper sur la première.
Les 10 ans.
Notre invitée aujourd'hui dans Entrez sans frapper est Jane Birkin. Bonjour Jane.
Bonjour.
Bienvenue dans cette émission. Je suis enchanté de vous y recevoir pour raconter une histoire tout d'abord. Une nouvelle histoire encore. Ça commence à l'été 2016. À l'été 2016, vous commencez sous l'impulsion de l'Orchestre symphonique de Montréal un répertoire, un concert qui s'appelle Birkin Gainsbourg, le symphonique. C'est prévu pour quelques représentations, deux je pense à l'origine. Sauf que 4 ans plus tard, vous êtes toujours en train de tourner dans les plus grandes salles du monde. Hein, le Carnegie Hall à New York, Hong Kong, Tokyo, Londres, Lisbonne, enfin dans toutes les plus grandes salles du monde avec ce spectacle. Et puis, vous aviez envie aussi d'en faire profiter les gens qui n'habitent pas nécessairement dans ces grandes villes. Et donc, on a réduit un peu la voilure. Ce n'est plus du symphonique. Mais vous présentez quand même Gainsbourg en version classique, entre guillemets, avec un orchestre de chambre, 8 personnes en l'occurrence, toujours sous la direction de Nobuyuki Nagajima. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a encore 50 ans après que ces chansons ont été écrites, pour certaines, encore une telle fascination pour Birkin et Gainsbourg?
Je ne sais pas, parce qu'à Hong Kong, c'était vraiment très inattendu. C'est quand même des Chinois qui ne parlent pas le français. Pourquoi c'était complet, c'est très étrange. J'ai tellement plu, bien sûr, compte pour beaucoup dans le monde entier. Hein, même les traductions des journaux intimes, etc. Évidemment, ça, c'est beaucoup à cause de Blow Up et Je t'aime non plus. L'œuvre de Serge en France, bien sûr, dans le monde entier, c'est toujours très étonnant. Je ne sais pas. Je sais que Arabesque a été un très grand succès. Parce qu'il y a eu cette idée d'un orchestre arabe avec cette mélancolie que ça installe et cette beauté qui était avec Jamel Bagnélez. Et là, peut-être, comme c'était avec un orchestre philharmonique, c'est quand même, je ne peux pas faire mieux, tellement c'est bien.
On ne peut pas faire plus grand, évidemment.
Oui, mais c'est touchant à la même manière. Et comme Nobuyuki a construit l'affaire, il me semble qu'on entend encore mieux les mots. Et là, dans une version plus petite, c'est exactement les mêmes chansons, les mêmes introductions, qu'il a pu rendre ça aussi riche avec moins de musiciens, mais autant de sentiments. Je vois les gens qui se tiennent, qui pleurent, qui découvrent les mots, encore une fois, de Lost Song, de Babylon and Babylon Made, les deux sushis qui fait le bonheur. C'est probablement les meilleures chansons qui étaient écrites depuis le dernier, je ne sais pas. Peut-être depuis Apollinaire, Baudelaire, c'est ce qu'on a dit à sa mort et c'est pas faux.
C'est probablement pas faux, non. C'est en même temps enrober ses chansons, que ce soit avec arabesque, de manière orientale avec un orchestre arabe, ici de manière symphonique et puis ici en musique de chambre. Mais ce qui est important, c'est les chansons. Quel que soit l'habit qu'on leur donne, si la chanson n'est pas bonne au début, elle ne sera pas bonne à la fin, évidemment. Et ce qui est fou avec ces chansons, c'est qu'on a beau les habiller de quelque manière que ce soit, ça fonctionne. Et ça, c'est quand même quelque chose qui tient presque à la magie, quoi.
Les mots sont tellement beaux. Des sushis, que c'est la pudeur des sentiments maquillés outrageusement, rouge sang, gardé au fond de soi, fragile comme un bas de soie. Enfin, les rimes, les beautés sur le fil de bonheur, avec comme une petite souris dans un coin d'alcôve, apercevoir le bout de sa queue rose, ses yeux fiévreux, de mettre un petit souris dans l'histoire d'une chanson sur la séparation, la tristesse, croire en cieux, croire en Dieu, même quand vous êtes déchiqueté, vous avez ce petit sourire. C'est la grande beauté de Serge, en fait. Alors, ils ne vieillissent pas. Ce qui était un sentiment peut-être pour lui personnel et à toutes les déchirures possibles pour nous et pour les personnes qui nous écoutent. Et c'est de haut niveau de poésie, même si lui n'aimait pas qu'on dise ça et qu'il était juste terriblement doué. Bon, très bien. Mais c'est vrai que ça touche les gens. Donc les gens sont émus. Et quand vous voyez les gens émus pendant le concert, après le concert, ça c'est assez rare quand même. Je vois des concerts assez constamment, mais d'être ému à cause des mots, de ce que les chansons disent, c'est d'un poignant qui n'est pas commun.
Il y a quelque chose évidemment de formidable quand on regarde votre vie, Jane Birkin. c'est que on a l'habitude de voir autour de nous, et d'ailleurs même dans nos vies, des séparations qui font tout exploser, qui mettent l'autre uniquement dans le passé. Il n'y aura pas d'avenir. Vous, dans cette histoire d'amour que vous avez eue avec Serge Gainsbourg, il y a eu un avant, il y a eu une séparation, il y a surtout eu un après, avec des albums formidables qui sont sortis dans les années 80, après votre séparation avec Gainsbourg. Mais même la séparation de la mort n'a pas fait toute explosion non plus. Il y a encore eu un après. C'est-à-dire que les tragédies de la vie, que ce soit la séparation du couple ou vraiment le départ d'un des deux amoureux, n'ont rien fait. Finalement, à cette union. Tout a continué.
Oui, c'est un peu gai quand on arrive à Hong Kong, où les gens doivent vous vraiment... Pas seulement il n'a jamais été allé chanter, mais il n'a jamais été point. Donc, il était à très peu d'endroits, finalement. Il a fait très peu de concerts. Donc, à 28 ans plus tard, de pouvoir cavaler partout avec lui comme cadeau, c'est vrai que... Il n'y a pas de limite à les années, ni grâce à lui, cette amitié que nous avons eue est assez remarquable quand même. Je trouve qu'il a bien voulu. Ça, en matière de divorce et de couple, tout le monde me comprend. Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux, pratiquement. C'est de devenir l'ami de la personne avec qui on a vécu. C'était peut-être pas possible d'être son ami de votre vivant à vous deux, mais d'être devenu l'ami, quand vous êtes séparés, on prend ça comme une telle chance. Une telle chance que ça continue. Pourquoi? Donc, d'avoir en plus qui m'a donné ses chansons de sa côté féminin à moi à chanter jusqu'à sa mort, ça, je pense que c'est du jamais vu d'un créateur et la personne qui a inspiré après leur vie ensemble et jusqu'à sa mort. Je suis assez fière.
Oh ben j'espère bien pour vous, Jen. Il y a Baby Alone in Babylon, il y a L'amour des feintes. C'est quand même des très grands disques, évidemment, qui sont écrits et interprétés par vous durant cette période. Le couple, et puis après, on mettra ça, évidemment, de côté. Il y a quand même, c'est incroyable, évidemment, le mythe auquel a atteint ce couple. Hein. C'est ce qu'on appelle un couple mythique, Gainsbourg-Bergin. Pourquoi, à votre avis, celui-là plutôt que d'autres? Parce que deux personnes célèbres qui s'aiment, ça arrive très souvent sur cette planète, et puis on les oublie. Pourquoi ce couple-là est absolument inoubliable pour nous, pour le public?
Je ne sais pas, je suppose que quand même, ils se souviennent de leur propre jeunesse avec nous. C'est possible, hein? Quand les gens... Je m'en souviens, je suis allée pour chanter à leur réunion. C'était un orchestre très, très jeune, philharmonique, très, très jeune. Et pour la répétition, ils n'ont pas démarré. Et je dis, pourquoi ils ne jouent pas? Et on m'a dit, parce qu'ils sont impressionnés. J'ai dit, mais impressionnés par quoi? Alors ils ont dit, mais par vous. Et j'ai dit, mais pourquoi? Ils ont dit, parce que vous êtes l'histoire. Et je me suis dit, mon Dieu, pour ces gamins-là, je suis donc dans une histoire pour eux. Et c'est peut-être ça, il y en a eu des couples, hein, mon Dieu, dans l'histoire. Mais que ça soit un couple avec autant de création entre eux deux, tout à part l'amour, tout à part le scandale, tout à part les enfants, tout à part tout ça, que ça soit aussi sur les cris et de l'inspiration de ces deux personnes, peut-être pour ça, c'est un peu rare. Mais je pense aussi que pour les personnes qui ont 70 ans maintenant, ils s'en souviennent de leur propre jeunesse. Et ça les pique.
Ah, et ça les pique. Ça nous pique, nos jeunesses, Jane.
Ça nous pique.
C'est le moins qu'on puisse dire. Vous avez parlé des Dessous Chic. Je sais que c'est une de vos chansons préférées, si pas votre chanson préférée. Est-ce que vous pouvez me dire pourquoi?
Ah, parce que c'est le portrait de Serge, très explicitement, maquillé outrageusement rouge sang. C'est lui avec ses bifetons de 500... en train de les allumer. C'est lui qui se pavanait et qui faisait semblant d'être... qu'il y était aussi, ce personnage outrancé, choquant. Mais à l'intérieur, c'était tout de même Gainsbourg, si ce n'est pas Gainsbourg, en dessous ce Gainsbourg. Et ça, c'est vraiment les Dessous Chic. C'est la pudeur des sentiments, maquillée outrageusement rouge sang. se garder au fond de soi, fragile comme un bas de soie, c'est lui aussi. Alors quand je le chante, je trouve que je fais un mini-portrait de lui. Je le chante bien aussi parce que c'est très haut. Mmh. Et si j'arrive de faire les notes pile, et dans l'intime, c'est encore plus nécessaire que quand c'est avec 60 musiciens. Mmh. Il faut vraiment être tout à fait impeccable. Et pour les dessous chics, ça m'énerve si je ne suis pas absolument comme il faut, parce que ça porte cette chanson qui est absolument intraduisible. Parce que j'ai essayé pour les Anglais. J'ai dit, oh, c'est tellement beau, les dessous chics. Mmh. Qu'est-ce que veut dire? Ils disent, chic underclothes. Et tout de suite, c'est dégoûtant. On dirait, oui, une boutique pour sous-vêtements féminins. Enfin, mm-hmm. je dis, non, non, mais c'est pas ça, c'est des sentiments. Ouais, oui, c'est ça. Alors, c'est très difficile à traduire les dessous chics. Je pensais que ça serait assez facile de traduire même Fuir le bonheur. Mm-hmm. Run away from happiness me semblait facile, mais ce n'est pas facile.
Non.
Alors, du coup, il n'est pas traduit du tout. Et parfois, quand je chante les choses, et je le fais aussi pour l'intime, comme la chanson de Prévert mm-hmm. ou la javanaise, c'est des mélodies tellement fortes que ça m'étonne que les Américains n'ont pas juste chopé pour la mélodie
oui.
et mettre d'autres mots, comme pour la mer de traîner, etc. Mm-hmm.
Ils n'ont pas fait. Hein.
Ils n'ont pas fait. Serge était vexé qu'ils ne l'ont pas fait. Et après, il se faisait raison en disant peut-être parce que je suis trop fort. Je dis oui, oui, c'est ça. Parce que son image à lui est si fort que les gens étaient timides de prendre ou de... Il est... Oui, peut-être il était trop fort.
C'est assez probable. Hein. C'est la première fois dans cette rencontre que vous parlez de musique. Tout à l'heure, vous parlez toujours des mots, parce que les mots sont si beaux, etc., etc. Et c'est la première fois pour vous parler de musique. Comme si, avant tout, Gainsbourg, pour vous, était un auteur et pas nécessairement un compositeur. Est-ce que c'est ça qui... Que oh. vous avez en tête, parce que ça reste quand même, excusez-moi, un mélodiste.
Oh non, non, mais bien sûr. Oui, 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 bien sûr.
Je mais vous, c'est les mots qui, sur le temps, vous touchent.
La valse de mélodie, Mélodie Nelson, L'homme à la tête de chou, pour moi, c'est les deux œuvres monumentales de Serge, bien sûr. Et bien sûr, c'est des musiques. Ce qui a donné l'idée de le symphonique, c'est que parfois, il voulait nous donner des choses tellement merveilleuses à moi, Bambou, Charlotte, Bardot, qu'il mettait ses paroles sur la musique classique. Donc, mm-hmm. en fait, Babylone et Babylone, c'est classique. Lost mm-hmm. Song, c'est classique. Zeste de citron, c'est classique. Vanishes Bibi, c'est classique. Donc, c'était ça qui a donné l'idée, finalement, de faire ça, carrément, avec un symphonique. Mais, oh oui, dans les mélodies, non, il est formidablement fort.
Vous avez fait, dans les années 90, hein, des disques avec, évidemment, de nouveaux auteurs. Vous avez des nouvelles chansons, des albums de duo, des albums composés par l'ancienne génération, par la nouvelle. Est-ce que vous avez, dans votre vie, trouvé le même plaisir de chanter les chansons des autres par rapport, évidemment, aux chansons de Serge, où il n'y a rien à faire? C'est inatteignable, le plaisir de chanter qu'il peut vous donner.
Ah non, parce que je ne dirais pas que c'est un plaisir de chanter Serge. C'est un niveau très haut qui vous met la pression, quelque chose de terrible, avec parfois des mots qui sont compressés dans sa langage, de mettre énormément de mots pour très peu de notes, qui fait que c'est un vrai cauchemar à chanter, pour le mettre en place, hein, au départ. Après, on s'habitue. Mais en comparaison de chanter Alice de Tom Waits, ça, c'est la facilité même et c'est génial. Mm-hmm. En plus, comme ce n'est pas quelqu'un que je connais, ou ce n'est pas grave. Tout ça, c'est relativement pas grave. Avec Serge, c'est comme s'il fallait absolument pas être moins bien. C'est très haut aussi, donc ça demande un registre vocal absolument impeccable. Donc je fais chier tout le monde en disant « je vais attraper un rhume, il faut des écharpes, etc. » de faire toute une histoire. Alors que quand c'est un registre un peu plus bas, mm-hmm. c'est d'aucune importance. De chanter, même ex-fan, c'est d'aucune importance, c'est plus bas, c'est, mm-hmm. ça demande rien vocalement. Alors, non, c'était un grand plaisir. Ce que j'aime surtout, c'est chanter des duos avec des gens que j'admire. Mm-hmm. Ça, c'était un vrai plaisir. Alors, parfois, j'arrive en Belgique et je peux chanter avec Arnaud. C'est un plaisir partagé. Et je pense que j'ai toujours aimé ça, de regarder sur la télé deux mecs qui chantent ensemble mm-hmm. ou... Quand c'était Mick Jagger et
David Bowie
ensemble, c'était tellement merveilleux de les voir les deux ensemble. Mmh. Et dans les Carpentiers ou des vieux shows de télé, en fait, le délice, c'est de voir deux personnes. Quand on voit Sylvie Vartan et Françoise ensemble, quand tu vois, c'est charmant, ça. Ah, oui, charmant. Non, j'adore ça. En plus de chanter, on peut tout d'un coup, on est remise avec tout un pas de votre vie qui est absente. Alors, vous allez à la rencontre dans les autres pays grâce aux chansons. Mm-hmm. C'est rarement à cause d'une pièce de théâtre, mais dans mon cas, plus du tout pour le cinéma. Donc, c'est des chansons qui m'embarquent partout. Et grâce à ces autres auteurs, ça m'a donné un prolongement. Franchement, je pensais que peut-être je valais rien sans ça. C'était une vraie... Non, mais c'était une vraie...
Vous êtes posé la question.
Bien sûr. Et j'ai dit à le Richard, mais est-ce que tu penses que j'ose faire sans lui? Et il a dit, bah, à ce moment-là, il faut être totalement infidèle. Donc, j'ai découvert Miossec, un tas d'auteurs qui étaient nouveaux pour moi. Mm-hmm. Ça, ça va dans le rang de plaisir. Chanter sèche n'est pas un plaisir.
D'accord.
Par là, je veux dire, vous me comprenez, c'est, mm-hmm. c'est une responsabilité.
Évidemment. Je n'y avais pas pensé, figurez-vous, mais je vous comprends. Il y a ce concert, Jane, et puis il y a un livre qui sort. C'est la suite de Monkey Diaries, qui était sorti il y a un an, maintenant, à peu près, qui était le premier volume de vos mémoires hein, sous forme de journal. Il partait de la période 1957-1982, en gros, toutes les années 60, les années 70, les années Gainsbourg aussi, les années des yéyés, etc., etc. Et vous étiez arrêté en 1980-1981, juste après votre rencontre avec Jacques Doyon, après avoir quitté Serge Gainsbourg en 1981. Et ici, ce livre, il va couvrir la période 82-2013. En fait, ça commence avec la naissance de votre filou, votre dernière fille. Mais quand on parcourt le livre, il y a évidemment un mot qui est plus fort que tous les autres, c'est « maman ». Est-ce que ça a été le mot le plus important de votre vie, « maman » ou pas ?
Ah, j'ai jamais pensé. Mais je me suis retournée l'autre jour quand quelqu'un, quand un enfant le disait dans un parc. Et puis, je me suis rendu compte que, bien sûr, ça ne pouvait pas m'adresser. Mais c'est vrai, oui. Enfin, c'est le plus grand plaisir, c'était d'être maman. C'était d'accoucher, aussi curieux que ça peut vous sembler. Mm-hmm. Et puis de les avoir larves, bébés, tout petits, à la naissance. Et puis à quatre pattes, et puis debout, et puis teenager. C'était un vrai plaisir.
Et quelque chose qui m'a frappé, l'autre mot, c'est évidemment femme, hein, amoureuse. Les différents hommes de votre vie. Et puis, on a l'impression qu'à un moment, voilà une chose qui vous quitte, qui part. Est-ce que l'amour, entre un homme et une femme, l'amour, ou entre deux femmes d'ailleurs, entre deux hommes, mais l'amour, est-ce que c'est quelque chose qui vous habite encore ou est-ce que c'est quelque chose qui ne vous intéresse plus?
C'est vrai que ça fait très longtemps que je n'ai pas eu l'agonie d'être amoureuse. L'agonie de se demander où était l'autre personne. Est-ce que vous étiez en train de le perdre? Est-ce que... J'ai vu mon visage transformé d'avoir été une personne drôle que les personnes ont envie d'être avec, à ce visage sinistre qui regarde l'heure, qui panique, qui sointe les défaites pratiquement. Eh bien ça, je ne l'ai pas eu depuis très longtemps. Depuis Olivier Rollin, que j'aimais vraiment énormément et qui a continué d'être un copain, mais un merveille d'homme. Mais c'est vrai que je n'ai pas paniqué depuis longtemps, dans ce sens-là. Alors peut-être ça veut dire que on bascule vers autre chose, je ne sais pas. Probablement qu'on bascule vers autre chose.
Vous m'avez troublé, je suis désolé.
Bah,
j'ai
je
une
comprends.
Autre question, ne vous inquiétez pas, Jeanne, mais vous m'avez troublé. vous parlez... d'agonie amoureuse. C'est évidemment une très bonne expression, hein. Je pense qu'on la comprend tous, malheureusement pour nous, ou heureusement. Et vous dites, ça fait longtemps que je n'ai pas ressenti cette agonie amoureuse. Et quand, au début de la phrase, c'était moins mélancolique, c'était presque plutôt... Ça semblait presque être un bon souvenir, l'agonie amoureuse. Est-ce que les tempêtes de l'amour, hein, vous savez, c'est très haut, c'est très bas, c'est quelque chose qui vous plaisait?
Oui, je suppose.
Même avoir mal, hein, je veux dire.
Ça, vraiment, j'en sais rien. J'en sais rien. Il me semblait que c'était toujours un peu compliqué. Tout était toujours un peu compliqué. Ça devenait compliqué. Mais c'était très joyeux aussi, mon Dieu. J'ai l'impression de... Agonie, c'était peut-être pas un bon mot pour ça, alors. Parce qu'il y a quelque chose de tellement invraisemblable quand quelqu'un tombe amoureuse de vous, et vous deux. C'est vrai que c'est une chaleur qu'on n'a pas... C'est comme d'un autre pays, un peu.
Ça vous nourrit, ça, vos voyages aux quatre coins du monde, parce que le tour de la planète, je pense que vous l'avez fait quelques fois maintenant, Jane. Est-ce que voyager, c'est encore quelque chose qui vous nourrit, qui vous plaît, qui vous excite, d'aller voir ce qu'on appelle l'autre?
Ça me divertit d'aller ailleurs. Je me fais chier chez moi. C'est vrai, hein. Je m'ennuie tout seul. Et d'avoir la possibilité d'aller rejoindre les autres avec les excuses, des chansons, des interviews, des livres, c'est un bonheur. Aussi, je trouve qu'un échappatoire est très nécessaire à sa propre vie. Et d'aller voir la vie des autres, si c'est par un film. Là, j'ai vu Des Misérables il y a 3 jours, le film de Ken Loach avant. C'est des tels coups de poing, des telles curiosités des vies des autres, vraiment. Qu'après ça, on se remet en ordre sa propre tête un peu. Et puis d'être transporté par la beauté d'un concert ou de... C'est peut-être ça que je trouve difficile pour les personnes qui n'ont pas cette chance. Par là, je veux dire que quand les choses sont vraiment plutôt misérables, difficiles, compliquées, j'ai toujours pu aller au cinéma ou aller au théâtre, aller à un concert. Parfois 3 films. Parfois de ne pas rentrer le soir pour ne pas voir chez moi et de rester dehors dans les salles de cinéma, un après l'autre après l'autre. Mais quelle chance!
Eh oui.
J'ai vu hier un interview où c'était des personnes qui n'ont jamais pu se payer un cinéma. Donc ce divertissement de la tête, cette ouverture aussi dans le monde des autres, pour vous réconforter un peu et aussi pour vous mettre en équilibre de votre, ou plutôt en perspective, vos propres difficultés. Eh bien, il y a des gens qui ne peuvent pas avoir ça.
Oui.
Ils n'ont pas ça. Donc ils sautent le bocal tout seuls. Les enfants vont marauder dans les endroits qui font peur et vous vous attendez paniqué à la maison. Et puis, vous ne pouvez pas partir. Je ne sais pas. Je trouve que c'est une telle chance d'être dans un milieu aussi bien le vôtre que le mien, de parler avec les gens.
Bien sûr.
De parler, d'entendre des histoires, de communication en fait. Je serais un ermite très, très triste.
Dans le livre, Jane Birkin, vous dites finalement la période après les années 80, après Gainsbourg, après la prime jeunesse aussi, hein, a été une période plus curieuse des autres, justement. C'est ce dont on parle là maintenant. Vous avez découvert sur le tard que ce qui était important dans la vie, primordial, uniquement nécessaire, c'était les autres.
Je pense que c'est quelque chose qu'on découvre. Dans mon cas, c'était plus tard parce qu'il y avait urgence à la maison, il y avait comme beaucoup de monde. Hein. Après, quand les enfants prennent leur propre envol ou qu'ils peuvent aller dormir chez leur papa ou que, en tout cas, la vie s'arrange, vous n'êtes pas super urgent à la maison. Eh bien, on découvre cet autre monde où parfois c'est plus simple d'y aller que de regretter de ne pas y aller parce qu'on voit le tremblement de terre à Haïti. Eh bien, avec Christophe, on est parti. Parce que j'avais 10 de chansons que je pouvais chanter dans les hôpitaux sans aucun musicien. Et parce qu'ils vous connaissaient un peu aussi, donc ça donnait un peu plaisir. Mais c'était les choses qui m'ont rendue tellement heureuse, finalement. C'est un peu égoïste d'avoir ce plaisir-là. Mais c'était un plaisir immédiat de voir le sourire sur le visage de l'autre. Ou d'emmener quelque chose, je m'en souviens à Sarajevo, le vrai bonheur. J'avais dit à maman, qu'est-ce que tu avais emmené quand ton appartement a sauté pendant la guerre? Elle a dit, le superflu. Donc, allez, hop, je suis partie là-bas avec des choses très nobles comme la littérature, des livres pour l'école, etc. Mais aussi des graines pour planter pour les fleurs. Aussi des sous-vêtements en satin et en soie que je mettais dans mon sac à dos. Et quand j'ai enlevé les sous-vêtements en soie aux jeunes filles dans ces banlieues où ils n'osaient pas sortir parce que ça sautait de partout, eh bien, leur visage, j'ai vu que maman avait raison, que c'était... Ils applaudissaient des deux mains comme font des gamins de 14 ans quand ils voient un truc. C'était des personnes qui ont connu, comme nous, les vraies beautés de la chose, quatre ans avant le siège. Ils s'étaient coupés du monde. Donc, voilà, c'était une gratification, je voulais dire, qui est peut-être très égoïste à avoir. Mais c'était ce qu'il y avait de plus joyeux, en fait.
C'est très joli. Merci beaucoup, Jane Birkin.
Merci à toi.
Entrez sans frapper sur la première.
Les 10 ans.
Retrouvez tous les podcasts de la RTBF, dont de nombreux inédits, sur RTBF Ovio.